Donc le titre du cours d'aujourd'hui, c'est L'Ichyot Chaye Netzach, vivre une vie éternelle. Ba Torah, Kol Davar Meduyak Betachlit. On sait très bien que dans la Torah, tout est très précis. Gam Shmot Aparashot Meduyakim, même le nom d'une paracha est précis. Ushma Shel Kol Paracha Mevate Et Mauta Vetorna. Comme on l'a appris il y a quelques semaines, que le nom de la paracha, non seulement que c'est précis, mais le nom de la paracha doit exprimer normalement l'essence et le sens profond de la paracha. Ça, c'est une règle générale. C'est-à-dire que le nom de la paracha, c'est pas simplement le début de la paracha. Par exemple, si notre paracha s'appelle Vayichi, c'est pas uniquement parce que la paracha commence avec les mots Vayichi. Hein? Mais il y a aussi d'autres raisons. C'est que dans le nom de la paracha, on va retrouver l'essence de la paracha. C'est le titre de la paracha. Alors, d'après ça, donc, dans la majorité des parachas, on n'a pas de questions. Bon, prenez la majorité des parachas, par exemple le paracha de la semaine dernière, Vaïgash, ben, ça parle, la paracha de quoi elle parle principalement? Elle parle du fait que Yehuda va chez Yosef, et donc elle parle du rapprochement entre Yosef et ses frères. Donc, dans le nom de la paracha, on retrouve tout. Pour notre paracha, ça pose problème. Pourquoi? Parce que, Orzot Mitbakesh est là, d'après ça, la question va se poser. Lama Nikret Parachatenu Peshem Vaïchi. Pourquoi notre paracha a le nom de Vayichi? Vayichi en hébreu, ça veut dire quoi? Vayichi. Chai en hébreu, ça veut dire quoi? Chai. La vie. Donc Vayichi, ça veut dire, on dit Vayichi Yaakov, Yaakov a vécu. Ça veut dire que le nom de la paracha, de quoi il parle? Le nom de la paracha, a priori, il symbolise la vie. Ba Becha, Sheyo Seket Befaragamour. Mais pourtant, quand on lit la paracha, si vous lisez la traduction, vous allez voir que la majorité de la paracha ne parle pas de la vie de Yaakov. Elle parle du départ de Yaakov. Elle parle comment Yaakov prépare son départ. Dès le début de la paracha, il a appelé son fils Yosef pour lui dire, écoute, je veux partir, etc. Il a béni ses enfants avant de partir. Ça veut dire qu'on ne parle pas du tout de la vie. Il est en train de préparer son départ. Donc comment expliquer le fait que la paracha parle principalement du départ de... Yaakov, et pourtant, on l'appelle Vayichi. On l'appelle la survie de Yaakov. Mais il n'a pas vécu, il est en train de mourir. Il est en train de préparer son départ. Alors comme il a dit, on a cette question qui se pose aussi sur la paracha Chaye Sarah. La paracha Chaye Sarah qui nous dit, qui veut dire quoi? Qui veut dire la vie de Sarah, et pourtant de quoi elle parle? Elle parle de sa mort. Donc on va voir ce que le rabbi explique ici. Aesber Tamun, deuxième paragraphe. Aesber Tamun, Beomek Mashmeotam Shalachayim. Si la Torah nous appelle la paracha de cette semaine, Vayichi. Si la Torah dénomine notre paracha, va titrer notre paracha en disant la vie. Et que, dans les faits, on voit que notre paracha ne parle pas de la vie. Ça veut dire que certainement, on a une mauvaise définition de la vie. Et c'est pour ça, nous, quand on voit Yaakov qui va partir de ce monde, on dit, il va mourir, pourquoi tu dis la vie? C'est pas le titre de la paracha. Donc, la réponse à cette question se trouve, Beomek Mashmoutam Shalachayim, quand on va s'approfondir dans le sens profond de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie? Chaim Amitim, Em Nitzrim. Rappelez-vous le titre du cours d'aujourd'hui, hein, le titre. Vivre une vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie vie, c'est une vie qui est éternelle. Chaim Sheyesh Ben Knudot, une vie qui a des variations. Veshalulim Leipasek, et donc naturellement elle risque de s'arrêter. Enam Chaim Bemuvano Amiti Shalamusag. Ça veut dire que dans la Torah, le vrai sens du mot vie, c'est ce qui est éternel. Alors que nous, quand on va vivre, je sais pas, 70, 80, 90 ans. D'accord? Amen. Ça, c'est une vie qui n'est pas éternelle. La vie physique n'est pas une vie matérielle. Donc ça, dans la Torah, ça ne s'appelle pas de la vie. Ça s'appelle une mission, ça s'appelle ce que vous voulez, mais ça s'appelle pas Chaim. Le terme Chaim en hébreu veut dire quoi? Veut dire Chai Be'emet, celui qui vit vraiment. C'est-à-dire quoi vraiment? La notion de vérité en hébreu, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire quelqu'un qui est vivant maintenant, mais que demain il risque de mourir, ben ça veut dire qu'en vérité, sa vie n'a jamais été une vie qui a toujours été vraie, parce que quelque chose de vrai ne s'arrête jamais. Par exemple, je vous donne un exemple. La Torah. Pourquoi on l'appelle Torah Emet? On dit que la Torah, c'est une Torah de vérité. Parce que la Torah ne changera jamais. Même quand Pesher qui viendra, la Torah ne changera pas. Parce que par définition, quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui ne change pas. Il n'y a pas la vérité d'aujourd'hui et la vérité de demain. Ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai demain et était vrai hier. Ça ne changera jamais. Sinon, c'est pas une vraie vérité. Comme les enfants, ils disent, la vraie vérité. La vérité vraie. Je te promets, la vraie vérité. Et mettre la mytho. Donc, Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le vrai sens de la vie, c'est quoi? Rappelez-vous, la question, c'était comment c'est possible que la paracha qui parle de la mort de Yaakov, on va la titrer Vayechi, on parle de la vie. Alors qu'est-ce qu'on commence à expliquer? On explique qu'en vérité, la vie, pas seulement notre tzadik, mais notre vie. Notre vraie vie n'est pas la vie matérielle qu'on a ici-bas. Parce que c'est une vie qui va s'arrêter. C'est une vie qui a des variations. Un jour on se sent bien, un jour on se sent pas bien, c'est une vie qui a des variations. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. Rak al Akadosh Baruch Hu Mekor HaChaim, et c'est pour ça que c'est seulement sur Akadosh Baruch Hu qui est la source de la vie. Efshar lomar shehu chai be'emet, c'est seulement sur Dieu qu'on peut dire que lui il vit vraiment. Kemo shenema, comme c'est écrit dans le prophète Jérémie dit la chose suivante, il dit, écoutez bien le verset, il dit Vahashem Elohim Emet, Dieu est vrai, ou Elohim Chaim, et c'est un Dieu vivant. Ça veut dire Dieu est vrai, c'est un Dieu vivant. Avec son expliqué, on comprend que la définition de quelque chose de vrai, on a dit, c'est quelque chose qui ne
éternel
et qui ne
arrête jamais,
qui ne change pas, il n'y a pas de variation, d'accord. Donc c'est pour ça que comme Akadosh Baruch Hu ne change pas, c'est pour ça que d'après où Elohim Chayim, c'est pour ça que Dieu est un Dieu vivant. Ça veut dire que la définition de la vie dans la Torah, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, d'accord. Bon, la question qu'on se pose, c'est nous, bon, c'est bien beau, si on dit que Dieu est éternel et que Dieu s'arrête jamais, etc., je veux bien comprendre, mais comment nous, comment le commun des mortels peut être appelé lui aussi vivant? Comment moi je peux être appelé vivant? Ok, j'ai compris, Dieu est éternel, donc Dieu il sera appelé vivant, Dieu est vrai, Dieu ne change pas, mais moi?
On s'attache à ça.
D'accord? Alors on va voir, il y a plusieurs détails. Er Yecholim, paragraphe suivant. Er Yecholim gam bnei tzemuta liskot bechaim ele. Comment même le commun des mortels peut mériter cette vie-là? Alors qu'en vérité, a priori, la définition de notre vie, c'est une vie matérielle. Donc une vie matérielle, par définition, s'arrête. Comment le commun des mortels peut mériter cette vie? Il nous dit ici, « à l'idée de Vekut Bachem, M. Daniel. » M. Daniel, ces dernières semaines, j'ai remarqué que vous êtes très inspiré. En général, dès qu'on commence à poser la question, tout de suite, vous balancez la réponse. Oh, Hachem. Que ça continue comme ça.
Amen.
Donc, puisque... Exactement, ouais. En général, on dit l'amour aveugle, mais là, l'amour l'a éclairé.
Amen, on a besoin de lumière.
Donc on dit comme ça. Ech yecholim gam netmuta liskot b'chaim ele. Comment le commun des mortels peut mériter de cette vie-là? Bon, on va expliquer ce que vous voulez dire, hein, M. Daniel. Aliedé dvekut b'chaim, c'est lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu. O'il ve'akadosh Baruch Hu achaim amitim, puisque Akadosh Baruch Hu représente la vraie vie. Alken kolad avec bo afuchai. C'est pour ça que tout celui qui va se coller à Kadosh Baruch Hu, eh ben lui aussi va être dénominé comme à Kadosh Baruch Hu. On va être appelé, on va dire que c'est une personne qui vit vraiment. Et on va illustrer ça avec un verset. Le Kach Nehema. Il y a un verset qui dit la chose suivante dans la paracha Vayetranan. Il dit, Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem, chaim kulchem ayom. C'est un verset très connu, mais vous allez voir quand on analyse ce verset, on voit qu'il est pas si simple à comprendre. Le verset, il dit, et vous, lorsque vous vous attacherez à Dieu, vous serez vivant. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'attache pas à Dieu, je suis pas vivant? Mais on voit des gens qui sont pas attachés à Dieu, qui vivent bien. C'est quoi cette histoire? Rachid ne dit rien. Il cherche Rachid, il dit rien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Et si vous vous attachez à Dieu, vous serez vivant. Bien sûr qu'on est vivant. Et de toutes les façons, même celui qui est pas attaché à Dieu, il reste vivant. C'est quoi cette histoire? D'accord? C'est quoi? Là, ce qu'on parle ici, on parle de la vraie vie. On parle pas de la vie physique. Et c'est pour ça qu'on te dit, celui qui veut mériter la vraie vie, celui qui veut sentir qu'il y a eu autre chose qui l'anime, à part la vie officielle, à part la vie physique, Ve'atem adeviki b'Hashem Elokechem. C'est lorsqu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Zo atziba, c'est aussi la raison pour laquelle, She'am Yisrael nimnei madvarim anikraim chaim. Dans Avot de Rabbi Nathan, il dénomine plusieurs choses qui sont appelées vie. Vie. Alors il dit, Dieu est appelé la vie, la Torah est appelée la vie, et il donne plusieurs choses qui sont appelées la vie. Et une des choses qui est appelée la vie, c'est quoi? C'est Israël. Il dit, Israël sont appelés Chaim. Comme ça, il dit, pourquoi? Quel rapport? Mikevan Shudavek Bakadosh Baruch Hu. Puisque le âme Israël s'attache à Kadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'on nous a dit? Quand on s'attache à Kadosh Baruch Hu, on devient vivant. Davarze Balide Bitouy. Alors bon, dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? C'est bien, tu me dis, je m'attache à Dieu, je deviens vivant. En clair, ça veut dire quoi? On a posé la question, on a dit a priori pourquoi notre paracha s'appelle Vayechi alors qu'elle va exprimer a priori la mort de Yaakov. On a expliqué que bon, la vraie vie c'est une vie spirituelle qui est éternelle. Ok. On a dit comment nous on peut mériter cette vie éternelle, c'est quand on s'attache à Dieu. Ok. Mais comment je peux ressentir ça dans ma vie? Comment dans ma vie je peux ressentir ça? J'ai pas senti que quand j'ai étudié la Torah, j'ai eu une vie éternelle. J'ai pas senti que ma vie a changé. J'ai pas senti que tout d'un coup, j'ai une vie éternelle. Comment on peut ressentir ça dans la vie de tous les jours?
Au niveau de l'âme, non?
Vous allez voir. Pas besoin d'arriver au niveau de l'âme. Davarze balide bitouille. Davka, kshiyoudi, pogesh bedarko mircholim. Cette notion-là de la vraie vie, la vie éternelle, va s'exprimer particulièrement lorsqu'un juif rencontre des obstacles dans son chemin. Venidrash, leit moded, im kashayim ou variot. Et tout d'un coup, le juif, on va lui demander maintenant, on va dire, ben maintenant, tu vas devoir affronter des difficultés, des problèmes. Kol od achayim, zormi mal meminuchot, tant que la vie coule. Hein, la vie coule, c'est une expression en hébreu qui veut dire tant que ça coule comme de l'eau, tant qu'il n'y a pas de problème. D'accord? C'est pas le torrent, ça coule, tranquille. L'eau va l'idée bitou barour devait coûter bakadesh barou. Tant que la vie d'un juif coule tranquillement, il ne va pas ressentir clairement sa ferveur avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il peut passer toute sa vie à étudier la Torah. Mais s'il n'a pas d'obstacle dans son chemin, et que ça coule, d'accord, ça coule comme le fleuve, il n'y a pas d'obstacle, bah du coup, jamais il va ressentir qu'en vérité, il y a la vie officielle et il y a la vie officieuse. Que officiellement, il vit physiquement, mais officieusement, il dépasse tout ça de loin. Pourquoi? Parce que jamais il va avoir besoin d'éveiller ce niveau qu'il a en lui, ce niveau de la vraie vie. Davka. C'est surtout, particulièrement, lorsque le juif va rencontrer des problèmes. Des problèmes et des dérangements, mais peut-être pas seulement dans la vie matérielle, dans la vie, ça veut dire dans sa parnassa. Ça peut être aussi dans la vie spirituelle. Des fois, on a des blocages, on n'arrive pas à servir la Kadosh Baruch Hu. Un blocage. Ça arrive, on a tous des blocages. D'accord? Et là, on se pose la question, on se dit, maintenant, regarde, l'autre, j'ai l'impression que lui, c'est le fleuve, ça coule tranquillement. Moi, c'est un torrent, ça monte, il y a un obstacle. Après, il faut envoyer beaucoup d'eau, après ça va remonter, mais après, il y a un autre caillou encore plus gros que ça. Je me dis, attends, à quoi on joue ici? C'est ça la vie. C'est ça la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il y a des chutes, il y a des côtes aussi. Ah, c'est mis galé des verrous, qui ou d'avec de mettre de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est là, hein, qu'on va réaliser qu'on est réellement attaché à Kadosh Baruch Hu. Ah, zunikrachai. On va reprendre l'exemple du torrent. Si vous prenez le fleuve, vous avez un fleuve. Un fleuve qui coule tranquillement, bon, il n'y a pas de source. D'accord? Pas un torrent, un fleuve. D'accord? Un fleuve. Le jour où on met un barrage devant ce fleuve, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête. Dis-moi, j'avance, tu m'arrêtes, je m'arrête. D'accord? Je ne parle pas d'un fleuve qui est alimenté par une source ou par la mer. Un fleuve, hein, voilà un fleuve, comme vous voyez la Seine. Où il mettait un barrage? Bah, il s'arrête. Parce que c'est fini. Il ne peut plus avancer. Dis-moi, tu m'enlèves le barrage, j'avance. Si tu laisses le barrage, je ne peux plus avancer. Le torrent, vous lui mettez un barrage, qu'est-ce qu'il fait le torrent? Il va surmonter le barrage. C'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs cette énergie pour produire de l'électricité, je crois. Parce que le torrent va surmonter. Bien que le torrent, hein, nous paraît beaucoup moins puissant que le fleuve. Quand on voit un fleuve, c'est impressionnant, c'est grand, il y a beaucoup d'eau. Ce torrent-là, que quand tu le vois, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a beaucoup moins d'eau que le fleuve. Et pourtant, il a une puissance, et c'est là qu'il nous montre que lui, il dit, moi je suis vivant à vie, toujours, tu peux me mettre un blocage comme tu veux, je serai toujours vivant, je m'arrêterai jamais. Tu peux me mettre un blocage, ben je passerai ce blocage, j'ai pas peur du barrage. La différence qu'il y a entre le fleuve et le torrent, c'est exactement la même différence qu'il y a entre un juif qui, en vérité, on a tous un torrent en nous. On a tous un torrent qui nous permet de surmonter tous les problèmes. D'accord? Mais quand, pendant certaines périodes, on n'a pas de problème, il n'y a pas de souci, bah, au prochain tout va bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est dans une période de fleuve. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte comment en vérité on a une force extraordinaire et qu'on est capable de surmonter tous les obstacles. On croit qu'on est comme un fleuve. Que bon, tu mets un barrage et moi je m'arrêterai. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'à quel moment le juif va réaliser, qu'il a une force extraordinaire, c'est lorsqu'on lui met un barrage. Comme le torrent, à quel moment on va réaliser la force du torrent, c'est lorsqu'on lui met un barrage. Et là le torrent va dire, ouais, je vais te montrer qui je suis maintenant, tu vas voir, je passe ce barrage. Le fleuve il n'est pas capable de le faire, moi je suis capable de le faire. Ça veut dire que le juif va être capable de démontrer qu'il est vivant éternellement, comme le torrent, ça veut dire qu'il peut t'envoyer de l'eau autant qu'il veut, quand il va avoir des obstacles. C'est là qu'il va ressentir, il est toujours comme ça, mais c'est là qu'il va ressentir, il va dire, voilà, je te montre de quoi je suis capable. Atam uvan, avec ce qu'on a expliqué. On a expliqué que la vraie vie, c'est une vie qui est éternelle, qui ne change pas. On a expliqué que nous, comment on peut mériter à ça, c'est lorsqu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. On a expliqué que comment on peut le ressentir dans la vie de tous les jours, c'est quand on a des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacles, on ne peut pas le ressentir. Maintenant, on va répondre à notre question initiale. Ata mouvan, la manikret parachoté de nouvelle ici. Avec ça, on va comprendre Je suis au paragraphe, je suis à la page suivante. Chaim be Mitzrayim. Pourquoi notre paracha est appelé Vayechi? La question initiale qu'on a posée, on dit, mais je comprends pas. Yaakov Avinu s'apprête à partir de ce monde. D'accord? Il est en Égypte. Il galère. Il aimerait pas être là. Bon, il est venu ici pour voir son fils, mais il est en Égypte. Il va partir de ce monde. Il va quitter ce monde, pas en Israël, en Égypte. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit la paracha? Vayechi. C'est quoi le titre de la paracha? Vayechi. C'est ce moment-là que Yaakov a vécu. Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'on va voir clairement que Yaakov est vivant. Pourquoi? Kodem lachen, avance à Aya Yaakov Beret Israël. Avant que Yaakov se trouve en Égypte, Yaakov se trouvait en Eret Israël, mais comme Akdusha. Il se trouvait dans l'endroit de l'Akdusha. Ou Omnam Avar Arbet Sarot Veissourim. C'est vrai. Yaakov a passé, c'est vrai que dans sa vie, Yaakov a eu beaucoup de souffrances. C'est vrai. Avec son frère, avec Lavan, il a eu des galères. D'accord? Ach Adayin, lo aya dai bekar kede le galot et midat zekuto ba kadosh baruch le umat dargato ruchani et aluna. Ça veut dire que pour Yaakov, tous les obstacles qu'il a eu jusqu'à présent, pour lui c'était comme un fleuve. Il sentait pas qu'il y avait un réel obstacle, même quand il était chez Lavan, même lorsque son frère Esav l'embêtait. Il sentait pas qu'il y avait un vrai obstacle à surmonter. Bon, lui disait, bon, là je suis en mode fleuve. C'est du fleuve, vraiment, c'est facile pour moi, ça. Bon, ouais, bien sûr que il y a des petits obstacles à surmonter, mais c'est pas comme ça que j'exprime la vraie vie. Ah, Arkasha, Yaakov Nisalf Neptirato, mais lorsque Yaakov se trouve juste avant son départ, il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Léachar Sheyarad Nimishparto Le Mitzrayim. Après que Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte. Or, le Passouk nous dit que l'Égypte est Erva Taharet. Erva Taharet, littéralement, ça veut dire la nudité de la terre. C'est-à-dire l'endroit le plus dépravé de la terre. Vegam Sham ou Banav ou Bechlaze Ephraim ou Lashé chez Noldoum et Mitzrayim. Et même en Égypte, qui représente l'endroit le plus tamé de la terre, même là-bas, lui, ses enfants, et même ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, qui sont nés en Égypte. C'est-à-dire, c'est des produits de l'Égypte. Même eux, Omzim, Betit Katam, Imlo Ashlimout. Ils vont réussir à rester, d'accord, sadiques, sans qu'il n'y ait aucun problème. Là, c'est le torrent. Là, ils vont montrer que nous, on a peur de rien. Je peux mettre la plus grosse pierre, j'ai pas peur, je la surmonte. Avant, c'était du fleuve pour eux, c'était facile pour eux. C'est un fleuve, c'est rien du tout. Bon, bah, il y a des petits obstacles, mais c'est rien du tout. Là, c'est un réel obstacle. Ils devaient être confrontés à la nudité de la terre, à l'endroit le plus tamé de la terre. Et lorsqu'ils montrent qu'ils ont réussi à tenir, qu'est-ce qu'elle titre à la paracha? Vayechi. C'est là qu'on réalise que Yaakov était vraiment vivant spirituellement, que la vie de Yaakov spirituelle, c'est un torrent qui ne s'arrête jamais. C'est maintenant, lorsque Yaakov se trouve dans le moment le plus difficile, enfin dans le moment a priori le plus tamé, d'accord, et il se trouve dans la période la plus tamée, puisqu'il se trouve en Égypte, et bon, a priori il n'est pas content d'être là. C'est dans ce moment-là qu'on lui dit « Vayechi Yaakov », et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit que Yaakov a passé les 17 meilleures années de sa vie en Égypte. Il était en Israël avant. Les 17 meilleures années de sa vie, il les a pas passées chez son père, il les a pas passées dans les Shiva de Chamé Vert, il les a pas passées en Eretz Israël, d'accord, il les a pas passées chez son grand-père, Abraham. Où il les a passées les 7 meilleures années de sa vie? En Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? C'est Rachid qui dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Égypte? Parce que c'est là qu'il a découvert qu'il était un torrent. Parce qu'à présent, c'était du fleuve pour lui. C'était facile. Non, il savait qu'il avait ça en lui, mais on lui a jamais donné l'occasion de le découvrir. On lui a jamais mis une pierre. Donc c'est comme un torrent qui coulait. Jamais on lui a mis une grosse pierre. C'était des petites pierres pour lui, c'était facile. Là, on lui a mis un gros barrage. Il met un gros barrage. Je veux dire, là, maintenant, tu bouges pas, il n'y a plus de Kdoucha.
D'accord? Il a eu Lavan.
Mais pour lui, c'était pas la même chose. Combattre une personne qui lui casse les pieds, c'est pas comme un pays entier qui représente l'impureté de la terre. Jusqu'aujourd'hui encore, l'Égypte, on dit que les forces du mal d'aujourd'hui tirent leurs forces de l'Égypte. L'Égypte dans la Kabbalah, ça représente les forces du mal. Bien sûr. Pas l'Égypte matérielle. L'Égypte spirituellement, ça représente le mal. Et là, Yaakov, quand il se trouve devant ce barrage, et qu'il montre qu'il réussit à rester, il va réussir à rester un chômeur Torah et Mitzvot, ses enfants vont rester chômeur Torah et Mitzvot, ses petits-enfants produits de l'Égypte vont eux aussi rester chômeur Torah et Mitzvot, là, ça montre que notre torrent, il a peur de rien. Et que notre torrent ne s'arrêtera jamais. Rappelez-vous que ce que je dis, la vérité, c'est quelque chose qui ne... La vérité, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est là ce qu'il dit Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov, il dit, mon torrent ne change pas. Même en Égypte, en Israël, toujours le même. J'envoie toujours de l'eau. Rien ne peut m'arrêter.
Alors, Rachid, quand il dit les 17 ans, il veut parler de sa vie sur Terre, de sa vie en général. Sa vie, puisqu'on a dit que la vie, elle ne s'arrête pas.
A priori, il parle de la vie sur Terre. Mais là, on a expliqué que pourquoi c'est les 17 millions d'années, puisque c'est là que Yaakov a découvert de nouvelles forces qu'il avait en soi. Akmara Omeret, enfin je conclue.
Il a réalisé.
Ça veut dire que c'est là qu'il a pu. C'est là qu'il a. Ça veut dire qu'il avait toujours un gros moteur, si vous voulez, mais on ne lui a jamais donné l'occasion de le montrer. Et là, il a commencé à pousser. Bon. Akmara Omeret, dernier paragraphe. L'Akmara nous dit, dans le traité Ta'anit, Yaakov Avinu Lomet. Que Yaakov Avinu n'est pas décédé. Comme ça, elle dit. Pourquoi? Mais pourtant, il est. La Gemara dit, mais voilà, pourtant, on voit qu'on l'a enterré, qu'on l'a embaumé, tout ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que dit la Gemara? Mazar o bachaim, af o bachaim. De la même manière que sa descendance est vivante, de la même manière, Yaakov Avinu, lui aussi, est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emcher, qu'est-ce que veut nous dire la Gemara? Le sens profond de la Gemara, c'est quoi? Emcher ki yumo shel am Israël mitor dzekut bachem et darko shel Yaakov. Le fait que le Ham Israël va continuer à se maintenir, d'accord, avec ferveur en Hachem, il va continuer à suivre le chemin de Yaakov. Zehu Emcher Chayav, c'est ça ce qui fait la suite de la vie de Yaakov. Rappelez-vous, qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit, Yaakov, lui, n'est pas mort. Pourquoi je dis qu'il n'est pas mort? Pourtant, il est mort. On dit, de la même manière que sa descendance est en vie, de la même manière, lui aussi est en vie. Ça veut dire quoi? C'est pas logique. Sa descendance est en vie, lui, il n'est pas en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez? Hein?
Son essence qui
est... Mais ça veut dire quoi? Quand tu dis qu'il est vivant, il n'est pas vivant, Yaakov Avinu, il est Nissar.
C'est son héritage spirituel qui lui traverse.
Hein? Comment on dit que dans le monde futur,
l'histoire du...
comment on dit que dans le monde futur, ce qui te fait vivre, c'est.
Ça, c'est rattaché à l'éternité.
Oui, oui, d'accord, non, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Yaakov Avinu est vivant par le biais de ses enfants? On va comprendre ça avec l'idée du torrent. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'idée? Qu'est-ce qu'on a expliqué avec le torrent? On a expliqué que le torrent, c'est quelque chose qui ne doit jamais changer. C'est ça, l'idée du torrent, c'est que c'est quelque chose que tu lui mets un barrage, il continuera toujours à avancer, il enverra toujours de l'eau. Et il passera le barrage, ça prendra peut-être du temps, mais il passera le barrage. Yaakov Avinu, comment on sait que Yaakov Avinu est vivant? Par la vraie vie. On a dit la vraie vie, c'est une vie qui ne change pas. C'est lorsqu'on montre à Yaakov Avinu que nous aussi on continue sa voie. Donc on ne change pas. On dit à Yaakov Avinu, on est comme toi. Toi, tu étais chômeur Torah Mitzvot, nous aussi on est chômeur Torah Mitzvot. Et quand on montre à Yaakov Avinu que nous, on continue à garder Torah Mitzvot, que Am Israël continue à garder Torah Mitzvot, pour Yaakov Avinu, ça veut dire qu'il continue à vivre. C'est-à-dire que sa vie ne s'est pas arrêtée. C'est sûr qu'elle est passée à ses enfants, mais sa vie spirituelle, qui dit que c'est être garder Torah Mitzvot, elle ne s'est pas arrêtée. La preuve, ses enfants continuent. Le torrent ne s'arrête pas. C'est pour ça que les 17 meilleures années de Yaakov étaient en Égypte. Et c'est pour ça que nous, lorsqu'on est en vie, la vie spirituelle, eh ben, on est en train de faire vivre Yaakov. C'est ça la vie de Yaakov. La vraie vie de Yaakov, c'est ça, c'est une vie qui ne s'arrête jamais, qui ne change pas.
On a dit mi aider pour ses enfants, oui. Yosef,
c'est ça le message, oui. Quand Yaakov pose la question dans la parasha cette semaine, il pose la question à Yosef, il lui dit c'est qui ses enfants? Il savait très bien que c'est ses petits-enfants. Enfin, le Midrash explique que Yaakov a vu nous a posé la question à Yosef. Il a posé la question, il a dit. Yosef a saisi qu'il a posé la question, je comprends pas, c'est tes enfants, ils sont nés en Égypte. Comment ils sont? C'est tes enfants ça? Parce que c'est des tzadikim. Il a vu que c'est des tzadikim, il a dit, mais je comprends pas, ils sont nés en Égypte, c'est des tzadikim. C'est pas possible. L'Égypte, tzadikim, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a répondu Yosef? Il a dit oui, c'est mes enfants que Dieu m'a donné. Ça veut dire, il a dit, bah, je réalise ce Dieu qui m'a donné ses enfants et ils vont continuer à vivre la vraie vie spirituelle.
Ou Mika. C'est qui choisit le torrent et le fleuve? C'est toi ou c'est marqué?
Le quoi?
L'allusion au torrent.
J'ai un torrent, c'est moi qui l'ai rajouté. Pourquoi?
Je te donne un petit cours
sur les torrents.
Non, mais c'est moi qui l'ai pris, mais je ne l'ai pas inventé.
Non, mais...
Je ne l'ai pas inventé, j'ai pris la Gemara Tani, si vous voulez.
Même un fleuve, tu ne peux pas l'arrêter.
Oui.
Pour pouvoir l'arrêter, il faut créer un bassin, un gros bassin.
Ce que j'entends par l'arrêter, ça veut dire que si par exemple on va vider, le fleuve, on peut vider le fleuve. Alors qu'un torrent, il enverra toujours de l'eau.
Tu peux pas vider. Le fleuve, il a une source.
D'accord.
Aussi,
c'est pour ça que je vous ai dit,
le torrent, c'est la conséquence du fait qu'il est petit, voilà. Il est plus rapide.
C'est pour ça que je dis un lac. Je donnais l'exemple de la Seine. Prenez un lac, ça peut s'arrêter. Un lac, vous pouvez l'arrêter.
Oui, un lac, tu peux le sécher.
C'est fermé. On peut le sécher.
Sauf le lac de Tibéria.
On peut l'arrêter. Ce que je voulais montrer par le torrent, d'accord, c'est que le torrent, même si on va vider toute son eau, il y aura toujours de l'eau qui reviendra.
Le fleuve aussi.
Oui, c'est le mouvement.
Il a une source.
Le mouvement, qui veut dire.
Le fleuve, il a une source souterraine.
C'est possible, mais là, je parle...
Toute la neige qui tombe, tout est...
D'accord, donc là, vous parlez d'un fleuve qui est alimenté par le torrent. Donc, on revient sur le même compte.
Oui.
Bah oui.
De l'eau à mouvement.
Le torrent, c'est un petit fleuve, mais rapide.
Non, mais enfin, c'est normal. Ce fleuve ne peut pas s'arrêter. Un torrent qui vient d'une source ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Maximum que tu vas faire, tu vas le boucher. Alors tu vas le boucher, il va continuer dans le sol en dessous, mais tu peux pas l'arrêter.
Mais même un fleuve, tu peux pas l'arrêter.
Bon,
il va déborder partout.
Ça c'est la géo, oui, c'est
le
rabbin. C'est pas.
Parce que c'est
l'image, c'est une image qu'on voulait donner pour expliquer que un fleuve.
Parce que le torrent est rapide.
Parce que enfin, il a dit ici, il a dit kol od ha'chaim zormi malmei menuchot. Tant que la vie est en train de couler comme de l'eau qui coule tranquillement.
Voilà.
Non, c'est pas moi, enfin, j'ai pas inventé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la vie coule normalement, on se rend pas compte. Voilà, c'est une question de débit et de montrer qu'on est capable de surmonter. D'accord, bon, débit, c'est pas... La question, c'est que le torrent, hein, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que le torrent est capable de tout surmonter. Même si on a l'impression que c'est un petit débit, mais on voit que tu lui mets une pierre devant, il surmonte, il n'y a pas de problème.
Il est très rapide parce qu'il est en inclinaison, il descend.
Peut-être. Parce qu'aussi, il vient d'une source.
Est-ce qu'un sujet peut poser une question, quand même?
Je conclue, s'il vous plaît.
Conclue.
Oumikan, l'écart nitri, l'école yodi. Si vous ne voulez pas accepter l'exemple du torrent, n'acceptez pas, mais l'idée est là en tout cas.
Oui, l'idée ça va d'un fleuve tranquille et d'un torrent.
Voilà.
Comparer les deux.
Oumikan, l'écart nitri, l'école yodi. Et de là, on a un enseignement éternel pour tout juif. Chez Davka Bizman Agalout. D'accord? De là, on a un enseignement éternel pour tout juif. Chez Davka Bizman Agalout, c'est surtout Bizman Agalout lorsqu'on est en exil. Kaacher Akashim va Tsarot Merubim. C'est surtout quand on est en exil lorsque les difficultés et les épreuves, s'il vous plaît. Oui. C'est surtout quand on est en exil, Kaacher Akashim va Tsarot Merubim, lorsque les difficultés deviennent de plus en plus dures. Ça veut dire que les choses qu'on croyait qu'on pouvait surmonter facilement, ça nous paraît de plus en plus dur. Obifrad Besha'a She'en Roi Benebassar et Chroim Legel. Surtout lorsque de nos yeux on ne voit plus comment c'est possible que ma chair peut venir aujourd'hui. Et vous savez, on a retrouvé ça chez Yaakov Avinu. On dit chez Yaakov Avinu Nista Maquette. Yaakov Avinu, il voulait dévoiler le quête à ses enfants. D'accord, la date limite. Quand ma chair va venir. Et on dit que.
Il a perdu roi.
Il n'a pas vu. Ça veut dire quoi spirituellement qu'il n'a pas vu? Ça veut dire qu'il n'a pas compris comment c'est possible que ma chair peut venir. L'Égypte était tellement dépravée qu'il dit, mais comment ma chair peut venir maintenant? C'est impossible. C'est ça ce que veut dire, que le caisse lui a été caché. Et c'est la même chose, nous quand on est en exil, dans notre torrent si vous voulez, on a des grosses pierres qui viennent devant nous. Les pierres sont tellement grosses qu'on se dit, mais je comprends pas. Comment c'est possible que ma chair peut venir dans un monde qui est tellement dépravé comme ça? C'est pas possible. C'est encore pire que les générations d'avant. On se dit, mais c'est pas possible, ma chair peut pas venir maintenant. S'il n'est pas venu à la génération précédente, c'est pas maintenant qu'il va venir. Yaakov se posait la même question. Et pourtant, Ve'af al piken lomdim yehudi Torah. Et quand on voit que quand même les Juifs continuent à étudier la Torah, ou mekaimim mitzvot, ils continuent à accomplir les mitzvot avec ferveur, ou ma'aminim bechol os begula shlema, et on continue à croire en la Geoula, bien qu'a priori, si on suit la réalité des choses, le monde paraît encore plus dépravé. Donc on se dit, si ma chère n'est pas venue avant, c'est pas maintenant qu'il va venir. La logique, elle aurait dit comme ça. Et pourtant, on voit qu'on continue à faire Torah et Mitzvot. On voit qu'on continue, le peuple juif continue à croire en Mashiach. D'accord? Kan Midgalé, c'est là, dans ce moment-là, dans ce moment de difficulté, quand on surmonte la pierre, Kan Midgalé, c'est ici qu'on se, c'est maintenant qu'il se dévoile. Sha Torah ve Akadosh Baruch Hu Amachaim Amitim Shalam Israël, que la vraie vie du peuple juif, c'est quoi? C'est Torah et Mitzvot. La preuve, même si le monde nous fait passer un message contraire, il nous dit, mais c'est pas possible, Mashiach peut pas venir maintenant. S'il n'est pas venu la génération précédente, c'est pas maintenant qu'il va venir. Et c'est logique. C'est vrai, c'est logique. Quand on continue à être ma'amine, on se dit mais non, que les générations précédentes ont déjà récupéré les étincelles et que nous on récupère les dernières étincelles. Bien que dans la vie de tous les jours, celle qu'on le voit dans la vie de tous les jours, on a du mal à accepter ça parce qu'on voit que le monde est vraiment dépravé. Plus on avance et plus il est dépravé. On n'a pas besoin de l'expliquer. Quand on continue à faire Torah et Mitzvot et à être ma'amine, à croire que ma chair va venir, ça c'est ce qu'on appelle la vraie vie. Ça c'est la vie de Yaakov Avinu qui dit que ça ne change que la vraie vie de Yaakov Avinu, ça veut dire qu'un juif continue à faire Torah et Mitzvot, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. C'est pour ça que la Gemara Tanit nous a dit que pourquoi Yaakov Avinu est vivant, puisque la vraie vie de Yaakov Avinu est spirituelle, et la vraie vie ne doit jamais s'arrêter. Le fait qu'Am Israël ne s'est jamais arrêté et continue toujours jusqu'à la venue de Mashiach Bezrat Hashem, ça montre que Yaakov Avinu est vivant spirituellement. Ça montre que Yaakov Avinu est vivant spirituellement et que la vie spirituelle ne s'est jamais arrêtée. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. C'est pour ça que la paracha, le titre de la paracha, c'est Vayikri. Puisqu'à quel moment Yaakov Avinu a découvert les forces qu'il avait en lui, a découvert qu'il était capable de surmonter tous les obstacles. Si vous voulez, ne mettez pas le torrent, mais bon. Qu'il était capable de surmonter tous les obstacles. Si vous voulez, vous allez prendre un torrent à faible débit et à haut débit. D'accord? En HD. À quel moment on va réaliser ça? On va réaliser ça lorsqu'on est devant un grand obstacle. C'est là qu'on va voir qu'en vérité, on avait toujours un gros moteur. Sauf que, des fois, on n'a pas besoin d'utiliser ce gros moteur. Mais aujourd'hui, qu'on est en exil, on est à la fin des temps, on a besoin d'utiliser ce gros moteur pour se rappeler que Machiav finira par venir.
Je profite de la transition.
Alors, il a une question.
Ouais. Ouais, moi, je profite de la transition. Comme tu parlais de la paracha d'écrit, on est six à pas écouter la Torah, donc on demande une requête à écouter la Torah.
On est allé à Brit Mila.
Cinq minutes.
Bon. Alors, monsieur Guénis.
Non, il va l'écouter. Non, mais moi, c'est une continuité. Tu as dit que nous, avec nos actions, les bonnes actions, avec notre amour de la Torah, l'accomplissement, on refait revivre Yaakov. On peut par continuité penser qu'on fait revivre aussi les âmes ou tout simplement les vies de nos familles,
bien
de
sûr,
nos parents.
Bien sûr, 100%.
Et la deuxième chose, c'était quand tu dis, on a toujours appris hein, qu'on n'a pas dit la date de l'apparition du Mashiach,
oui.
Parce que si on l'avait dit à l'époque, il se serait peut-être découragé.
Très bien. Oui, mais la question, j'ai compris votre question. Mais la question qu'on se pose ici, c'est que Dieu demande à Yaakov de ne pas dévoiler le quête, c'est une chose. La date butoir, c'est une chose. Mais pourquoi Dieu a dû le cacher de Yaakov? Yaakov le savait toujours. Et tout d'un coup, dès qu'il a voulu le dévoiler à ses enfants, pac, on lui a coupé. Pourquoi il n'a pas reçu un message de Dieu qui lui dit ne dis pas, c'est tout, il aurait écouté. Il écoute Yaakov. Pourquoi on lui a coupé? Alors on explique, le Midrash dit qu'en vérité, c'est pas qu'on lui a coupé. C'est que Yaakov est venu à ce moment-là, hein. Jusqu'à présent, il était persuadé que Machiav pouvait venir, et allait venir. Quand il est parti voir vers son frère Esav, nous dit le Midrash, il a dit à son frère Esav, si on fait la hardoute, l'union entre nous, si tu fais Tchouba, Machiav va venir. Il était persuadé de ça. Mais lorsqu'il est venu en Égypte, c'est qu'il a vu que l'obstacle était tellement grand, il s'est dit, comment Machiav peut venir dans une situation pareille? C'est pas possible, le monde est tellement dépravé. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. La date, il ne l'avait plus à ce moment-là. On lui a enlevé. Mais ce qu'on explique, c'est que c'est pas seulement qu'on lui a enlevé la date, c'est que Yaakov a vu à ce moment-là, il comprenait pas quand il a vu comment le monde était en réalité dépravé. Il a découvert une nouvelle réalité. Il s'est dit, mais comment Machiav peut venir? Comment Machiav peut venir dans une situation pareille? C'est impossible. Et quand même, il a continué à croire. Il dit, bon, si Dieu a dit, alors il finira par venir. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est pas parce que j'ai déménagé ou j'ai eu quelque chose qui est passé dans ma vie. Ça ne change jamais. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est pour ça que, comme vous avez dit, M. Guéniche, c'est comme ça qu'on continue la vie spirituelle d'un de nos parents. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand quelqu'un part de ce monde, qu'est-ce qu'on dit à ses enfants? On dit, si vous allez continuer à faire Torah et Mitzvot, vous allez continuer donc l'héritage de vos parents, vous allez faire vivre vos parents. Pourquoi? Parce que la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Et quand on montre qu'on ne quitte pas l'héritage que nos parents ont donné, que Bezrat Hashem, nos enfants et nos petits-enfants, etc., ils suivront jusqu'à la venue de Mashiach, d'accord? Ça veut dire que leur vie spirituelle ne s'est jamais arrêtée, le torrent ne s'est jamais arrêté.
C'est l'immortalité.
Ça, c'est l'immortalité. Et c'est là qu'on découvre qu'on est vivant. C'est là qu'on découvre la vraie vie.
On est le moteur du...
Ah, il est où, M. Benichou?
J'étais allé faire un petit...
Ton exemple de fleuve et de torrent, il est excellent, mais ne parle pas de barrage.
Ah,
voilà. Non, oui, le fleuve, oui. Quand il vit.
Les meilleures années, c'est quand il était chez ses parents, parce qu'il n'y avait pas de difficultés.
Oui.
C'est comme un fleuve tranquille qui s'écoule. Attends, laisse-moi terminer. Et après, quand il était en Égypte, il avait besoin d'acquérir la vitesse du torrent pour... sauter les pierres.
Mais je parle pas de vitesse, parce que peut-être...
Mais la vitesse, c'est en alors, attachant la torrent.
Si vous voulez, j'ai compris. Alors si vous voulez, on va pas dire fleuve et torrent. On va dire lac et torrent.
Mais un lac, ça coule pas.
Un lac, ça coule pas.
Non.
Donc un lac, tu lui mets un obstacle, il s'arrête.
Ouais.
Il stagne.
Il n'y a pas besoin d'obstacle.
Voilà. Très bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau, c'est impressionnant. On peut avoir des lacs énormes.
Oui, il y a des lacs.
Mais tu l'arrêtes, tu peux l'arrêter. Le torrent, il n'est pas impressionnant. Puisque le torrent, des fois, c'est un petit torrent.
C'est un petit ruisseau,
c'est rien.
La vitesse du fait
et pourtant, c'est ce torrent-là qui va vous donner les fleuves et tout ça. Ça veut dire que le torrent, c'est une source intarissable.
Bon, alors, puisqu'il n'y a pas une seconde Kriyat Torah, je voulais voir...
Je vais vous dire Kriyat Torah. Je voudrais vous conclure avec la Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Il me semble que c'est dans Brachot.
va rester au moins 7
heures. Bon, je vais vous faire qu'à la Torah. La Gemara dit dans Bracha la chose suivante. Elle parle de, vous savez, celui qui s'est rendu impur par le mort. On dit qu'il devait se purifier avec la cendre de la vache rousse. Et il devait prendre Maïm Chaïm. Maïm Chaïm, ça veut dire de l'eau
vivante.
Et qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, c'est quoi de l'eau vive? Alors elle dit, c'est de l'eau d'un torrent. Et qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Je crois que je l'ai déjà dit. La Gemara là-bas, elle dit, justement, t'as dit qu'il y a une fois un cas qui a été posé aux anciens. On leur a dit qu'il y a un fleuve dans une ville, un torrent dans une ville, qui s'arrête une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans, il s'arrête pour quelques jours. Je sais pas, c'est avec une fonte de neige, d'accord? Non, une fois tous les 7 ans. Il s'arrête, mais après il reprend son cours. Alors on a posé la question aux anciens. On leur a demandé, est-ce que on peut utiliser l'eau de ce fleuve-là quand il coule, enfin de ce torrent quand il coule, pour purifier la pour purifier cette celui qui s'est rendu impur par le mort. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara dit non, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que ces eaux-là, on les appelle Maïm Kozvim, des eaux mensongères. Pourquoi mensongères, elles n'ont rien fait.
Stagnantes.
Non, c'est pas qu'elles sont stagnantes. C'est-à-dire peut-être que pendant 6 ans et demi, elles vont couler sans problème. Mais comme elles vont s'arrêter, la notion de vérité dans la Torah, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est ça qu'on parle. Quand je veux dire le torrent, je veux dire c'est quelque chose que tu peux pas l'arrêter, impossible d'arrêter. Même si tu vas le bloquer, tu vas enlever toute son eau, il enverra toujours de l'eau, sans arrêt, sans fin. D'accord? Et celui qui abreuva le fleuve, si vous voulez. Maïm Chaïm, de l'eau vivante. La notion de vie, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais.
C'est
bien.
Au,
non, c'est le texte. Non, c'est ça. C'est deux pages toujours.
Non, c'est l'idée de la